trop chaud. Pas bouger.
Bon été sur Radio Sarfé.
Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les estivales, on traverse l'Atlantique pour rejoindre les Antilles avec un épisode du podcast Les Sons Terrestres, qu'on aime beaucoup, issu de la revue d'écologie radicale Terrestre. Habiter les Antilles, à l'heure de l'Anthropocène, ça s'appelle. C'est une série de 4 capsules sonores scientifiques qui ont été réalisées en mai 2024 à l'occasion d'une rencontre entre étudiants et chercheurs, chercheuses autour de l'écologie politique en Martinique. Une semaine d'enquête pour aborder pas mal de problèmes environnementaux spécifiques à ces territoires. Les discussions captées par Florence Ménez et Lucie Loustano, qui sont respectivement anthropologues et étudiantes en sciences politiques, et qui ont été mises en onde par l'artiste sonore Maya Bokeh. Dans les 2 capsules du jour, il sera question de s'adapter à la proximité d'un volcan actif. Et on décalera ensuite en Guyane autour des risques liés à l'industrie pétrochimique, ses transitions énergétiques et ses effluves post-coloniales. Bonne écoute.
Alors, l'école actuellement se trouve ici.
Bonjour. Bonjour.
Donc, pour votre information, l'école actuellement se trouve ici, donc dans une zone à risque.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différents types de risques justement auxquels vous êtes confrontés sur la commune?
On est confronté à tous les risques, sauf avalanche.
Effectivement, il y a peu de chance.
C'est-à-dire séisme, inondation, érosion côtière, éruption volcanique. Et en plus, on a une spécificité, donc on a un cadeau en plus, c'est qu'on a les larves.
Ah oui.
Voilà, donc on a tous les risques qu'on peut avoir dans la Caraïbe, plus le phénomène de larves. Voilà.
Incendie de
Oui, et aussi des incendies en période de forte chaleur. Lorsque vous avez la paille qui sèche comme ça, vous avez des incendies qui démarrent parfois dans des coins qui sont inaccessibles. Et donc, on a ça aussi. Voilà.
Donc, depuis 2013, je travaille en Martinique et je me suis intéressée à la commune du Prêcheur parce que, en fait, c'est un lieu assez étonnant qui est situé au bout du bout de la Martinique. Hein, c'est le bout de la route qui est aussi un lieu qui est concerné par beaucoup de risques naturels différents. Donc, il y a le volcan, la montagne Pelée, il y a les lahars, donc c'est les coulées de boue qui dévalent périodiquement les flancs du volcan. Et puis, également, puisque le village est construit vraiment sur le bord de mer, par toutes les problématiques de montée du niveau de la mer, d'érosion littorale. Donc, c'est un village qui est à la croisée de beaucoup d'enjeux contemporains en matière de risques naturels et de risques typiques de l'Anthropocène. Et donc, c'est un lieu qui est vraiment intéressant pour les chercheurs de ce point de vue-là. Donc c'est nous qui avons proposé du coup d'aller travailler sur la commune du Prêcheur dans le cadre du campus comme un exemple assez paradigmatique d'une question qui se pose aux Antilles, qui est celle du croisement entre des risques bien connus entre guillemets qui sont qu'on dit naturels mais qui en fait n'ont rien de naturel, puisque ce qui fait le risque de catastrophe en fin de compte c'est la rencontre entre l'exposition humaine, l'installation des villages, des communautés, et puis le phénomène naturel lui-même. Mais la catastrophe n'a rien de naturel, c'est une construction sociale, un résultat.
Léla, on vous a expliqué à l'observatoire ce que c'était. Mm-hmm. Donc c'est des coulées, c'est de l'eau qui entraîne des amas de roches et de cendres volcaniques, et ça forme une espèce de matière visqueuse qui glisse et qui sert presque de tapis roulant à des blocs, à des blocs volcaniques énormes. Et on les voit, voilà. Ça peut faire, voilà, ça peut faire la taille d'une maison. Et vous les voyez descendre comme ça, tranquillement. Et puis ça disparaît d'un coup. C'est-à-dire qu'on peut même pas aller là-bas et dire qu'on va les voir. C'est-à-dire que c'est emporté. Et curieusement, quand ça s'arrête, on peut traverser la rivière, on va à la mer, on ne sait pas où ils sont passés. Donc la rivière les emporte. Et cette masse est tellement visqueuse que lorsque il y a un lard et que vous regardez la mer, vous avez la boue qui descend certainement au fond, mais l'eau est relativement claire. C'est-à-dire qu'elle ne se mélange pratiquement pas à l'eau de mer. Ça salit un peu, mais vous avez l'impression que à quelques mètres, il n'y a plus rien. Donc ça salit juste tout près de l'embouchure de la rivière, mais ça ne se mélange pas tellement c'est visqueux. Ça descend au fond, mais ça ne se mélange pas. Ce n'est pas vraiment de l'eau. C'est vraiment, ça devient une espèce de boue assez épaisse.
Et c'est l'origine des lards, c'est la falaise Saint-Père. C'est une falaise qui est située en amont de la rivière et qui, en fait, qui s'érode assez rapidement. Et donc, il y a régulièrement des effondrements sur la falaise. Ça s'accumule au pied de la falaise. Et au bout d'un certain temps, ce qui s'est accumulé au pied de la falaise va être emporté par l'eau et va dévaler toute la vallée jusqu'à la mer, en passant justement au milieu du village. Et il y a eu une grosse crise de lard en 2018. Donc ce qui est intéressant quand on s'intéresse à la question des catastrophes et de la gestion des risques de catastrophes, c'est de regarder aussi comment le village s'est organisé face à ces événements, qui étaient des événements très réguliers à cette période-là et qui ont obligé à s'organiser, à la fois en s'appuyant sur les dispositifs classiques déjà existants de la gestion des crises, mais aussi en développant des modèles un peu alternatifs, comme par exemple des guetteurs de la hare qui vont s'installer en amont dans la rivière et prévenir le village lorsque une coulée de boue arrive. Ça pose aussi toute la question de l'articulation entre l'instrumentation scientifique installée dans la rivière, qui est maintenue par l'observatoire, et justement cette organisation du village qui double l'instrumentation scientifique par aussi une organisation humaine avec des guetteurs pour aller contrôler ce phénomène-là. Donc on peut se poser plein de questions, on peut se poser la question de comment est-ce que les populations ont développé une connaissance du phénomène. Par exemple, ils nous parlent beaucoup du bruit, ils entendent les lards descendre la montagne, on parle de la rivière qui descend la montagne. Ce qui est évident aussi sur le terrain lorsqu'on discute avec les gens, c'est l'impact en fait de ces phénomènes sur leur vie quotidienne, avec des personnes par exemple qui sont très anxieuses dès qu'il pleut, avec des signes un peu un peu traumatiques, hein, de traces traumatiques de ces types d'événements. C'est des gens qui savent qu'ils vivent dans une zone à risque, exposée. Et quand la rivière descend, on ne sait jamais si elle va descendre sur cette partie du village ou si elle va rester dans le lit de la rivière. Donc il y a quand même toute une problématique qui est très intéressante sur la manière dont on vit avec une épée de Damoclès sur la tête et dont on s'organise. Face à ce risque, justement, le village a aussi commencé à réfléchir sous l'impulsion du maire Marcelin Nadeau, qui est maintenant député de Martinique, à un plan d'adaptation. Donc en prenant en compte à la fois ces coulées de boue, mais aussi le fait que l'eau monte à cause du réchauffement climatique, il y a une érosion de plus en plus forte sur le littoral, le village est coincé entre la mer et le flanc de la Pelée. Et donc une des solutions qui a été explorée et qui a été présentée longuement par Marcelin Nadeau pendant l'après-midi, c'était justement de déplacer une partie du village pour sortir de la zone à risque. Qui pose là aussi tout un tas de questions extrêmement intéressantes d'un point de vue sociologique. Comment est-ce qu'on déplace des gens, hein ? Vous avez par exemple ici des gens qui vivent là depuis des décennies, qui ont construit leur maison pour accueillir leurs enfants, donc des grandes maisons, qui ont beaucoup de mal à imaginer quitter pour de petits appartements. Elles perdent beaucoup dans ce déplacement. Donc ça pose beaucoup de questions, finalement, ces solutions-là. Et ça résonne avec toutes les questions qu'on peut se poser sur les risques sur les littoraux métropolitains, qui vont probablement obliger, à un moment donné, à réfléchir aussi à des déplacements de communes. Donc de ce point de vue-là, le prêcheur est quand même un lieu assez exceptionnel pour réfléchir à ces questions.
Vous avez le vieux clocher derrière. Vous avez vu la pointe derrière, c'est le vieux clocher. Et c'est l'aire de regroupement en cas de tsunami. Donc c'est là que normalement on est censé évacuer, mettre la population de cette zone à l'abri. Et c'est dans un quartier qui se trouve au-dessus de cette zone qu'on va construire justement l'école refuge et on va refaire ce quartier carrément. Voilà.
Allez, ça va pas être très long.
Alors pourquoi l'école est exposée? C'est parce que la rivière n'est pas loin. Et pour ceux qui voulaient monter au gué, lorsqu'il y a des coulées de boue et que le lit de la rivière est obstrué, la rivière est déviée et l'eau peut passer ici. Il est arrivé qu'on ait de l'eau devant la maison.
Oui.
Voilà. Donc,
c'est dans de l'eau d'ailleurs.
C'est pas. Alors pour l'instant, c'était de l'eau.
D'accord.
Donc on a eu des coulées d'eau un peu boueuse. Mais ce n'était pas les lards, parce que si le lard traverse là, ça casse les maisons carrément.
Ouais, ouais.
Donc pour l'instant, on a eu de l'eau. Donc ça veut dire que toute cette zone est dans une zone à risque, toute cette partie-là.
Et donc en 2018, il y a eu un lard hein, qui avait débordé un peu de l'eau.
Oui, qui avait débordé et dans les quartiers là, on a eu de l'eau, de la boue, etc.
Mais jusque dans la rivière aussi, c'est pas ça?
Oui.
Emporter le pont.
Le pont. Je vais vous montrer une photo justement du pont, oui. De l'ancien pont. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a demandé le pont que vous voyez actuellement, oui. Parce que le pont était un pont submersible et les blocs de pierre qui arrivaient étaient énormes et ça cassait le tablier du pont. Donc chaque fois, on avait un pont qui était abîmé. Il fallait refaire et on a eu une fois un bloc de pierre de 7 mètres pratiquement. Et même lors des dernières coulées de boue, la boue touchait l'actuel pont. Tellement le niveau était monté. Voilà. Donc on va traverser. Donc aujourd'hui, on a une belle place avec un beau pont. Mais ce n'était pas comme ça avant. Donc, vous aviez une partie du bout à partir de la poste. Ça descendait au niveau de la rivière. Et donc, c'était complètement plat jusqu'au quartier des Abîmes. Donc, ils ont voulu à un moment refaire ce pont à l'identique. Et la population s'est opposée parce qu'elle estimait que ce pont ne présentait pas suffisamment, ne les protégeait pas de la rivière. Surtout qu'ils voulaient abaisser encore le niveau des berges pour pouvoir refaire ce pont. Donc, ils ont exigé qu'on fasse un pont suspendu pour être sûr de pouvoir traverser et ne pas être isolé. Donc, voilà cette rivière. Vous la voyez calme, gentille. Elle est belle. L'eau est certainement très fraîche. Mais quand ça déborde, vous avez de la boue qui monte pratiquement parfois au niveau du pont là. Et ça éclabousse la route, là.
Le principal enseignement pour des chercheurs spécialistes, c'est que quand on se pose la question du développement d'un territoire face aux enjeux de l'Anthropocène, on ne peut plus penser de manière hyper spécialisée avec les volcanologues qui étudient le volcan, ceux qui vont travailler sur l'érosion côtière, ceux qui vont travailler sur le risque technologique avec la SARA. En fait, on est obligé de penser l'ensemble pour penser des solutions qui puissent être utiles en fait, pour le développement du territoire. Donc on ne peut pas continuer à réfléchir seulement de manière spécialisée. Et c'était un des enjeux du campus, c'était de montrer, d'expériencer ça en fait au travers du terrain. Que d'un lieu à l'autre, les questions non seulement elles seraient, enfin, les mêmes questions se posent sur différents lieux, mais en plus à l'échelle de ceux qui gèrent ce territoire, donc à la fois les habitants, mais aussi leurs représentants élus et l'État. On ne peut pas découper les questions en petits morceaux comme ça et réussir à trouver des solutions qui fonctionnent. Et donc voilà, et le prêcheur était intéressant de ce point de vue-là parce que c'était plutôt le volet risque naturel, qui est un volet peut-être pensé comme classique, mais qui finalement n'a rien de classique dans la mesure où il est très actuel. où il n'a rien de naturel, et où du coup finalement on est obligé de le repenser aujourd'hui en le revisitant par rapport aux autres questions que pose l'Anthropocène en matière économique, en matière sociologique, de pollution, etc.
Donc normalement, si on respecte les consignes, une fois l'école refuge construite, nous devrions casser ces bâtiments.
Ah oui.
Parce que dans la charte pour les fonds baronniers, c'est-à-dire que si vous estimez que lieu ne peut pas être occupé et présente un risque, vous devez le casser. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour autre chose.
Et donc, ce serait rendu à la nature, c'est ça?
Nous sommes en train de négocier avec eux. Parce que nous sommes une petite commune, nous avons peu d'espace public où on peut recevoir, etc. C'est voir comment on peut transformer. On ne mettra plus des enfants, parce que c'est un risque trop important, mais voir comment on peut transformer cet espace, peut-être en atelier d'artisanat ou des choses comme ça. Ou, voilà. On est fait de la mer, ça peut être aussi des lieux, des petites boutiques, des choses légères.
S'inscrit d'abord dans le contexte international de la guerre froide. La décision de doter les Antilles de leur propre raffinerie va être prise en 1964 sous l'impulsion du général de Gaulle. À l'origine, le projet s'inscrit donc non seulement dans une optique de réindustrialisation des départements nouvellement créés que sont la Guadeloupe et la Martinique, mais aussi de renforcement de la présence nationale sur le sol antillais par l'implantation de compagnies pétrolières françaises afin d'assurer la sécurité et l'indépendance des approvisionnements. C'est en 1969 qu'est par suite lancée la construction en Martinique de la société anonyme de raffinage des Antilles, la SARA, au cœur de la baie de Fort-de-France, mais aussi de ce qui allait devenir le nouveau poumon économique de l'île. La SARA sera opérationnelle à compter de janvier 1971 et va procéder depuis la Martinique au ravitaillement de la Guadeloupe. Un procédé de ravitaillement qui sera étendu en 1982 à la Guyane. À compter des années 1970-1980, le choix du pétrole comme source d'énergie exclusive vient satisfaire une consommation de plus en plus grande liée à de nouveaux usages de l'électricité, l'industrialisation, mais aussi l'administration et bien sûr le tourisme qui constituent des secteurs d'activité en plein essor. Parallèlement, l'usage de la voiture individuelle connaît, notamment aux Antilles, une croissance exponentielle. Et donc, le cumul de ces usages engendre une dépendance accrue de ces territoires et de leur population à une source d'énergie non renouvelable, qui plus est en l'absence d'accès à l'énergie nucléaire.
Alors, nous avons ici les alarmes. Alarme rouge, c'est sécurité. Alarme orange, c'est un avertissement. OK ? Donc, la distillation se fait avec des températures. Donc, comme on disait, le brut, il arrive, il va passer dans un train de préchauffe, il va passer dans un four, un grand four, qui va chauffer le pétrole. Une fois que c'est chauffé, ça rentre dans une colonne à distiller. D'accord ? Je vais très, très rapide.
Hein. Oui.
OK ? Donc, ils ont pas mal de points de contrôle, puisqu'il y a plusieurs unités. Il y a l'unité 11, la 12, la 13, la 14, la 15 et la 16.
La SARA est implantée sur un site classé Céveso, c'est-à-dire à risque d'accident majeur. Le classement de la SARA en site Céveso seuil haut, c'est-à-dire avec un danger non négligeable pour l'environnement et les riverains, s'explique avant tout par la quantité de produits chimiques stockés et manipulés en permanence sur place. Pour cette raison, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la DEAL de Martinique, donc les services de l'État local, vient régulièrement contrôler la conformité de l'activité. Des pompiers sont également présents sur site, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en cas d'incendie, le site est lui-même parcouru, maillé, par un réseau de tuyaux qui acheminent de l'eau ou de la mousse et par des pompes qui permettent d'accéder directement à l'eau de mer.
Donc on a vu la salle de contrôle, donc derrière il y a des réservoirs de stockage, voilà, avec la référence du bac, les volumes. Là, oui, on fait le tour. Là, sur votre gauche, il y a des réservoirs, un réservoir en travaux avec des échafaudages. Là, ces trois bacs-là contiennent du jet, du carburéacteur qu'on envoie à l'aéroport. Et ce qui est intéressant de voir par ici, c'est la proximité immédiate de nos riverains.
Oui.
On a des maisons.
C'est ça.
Oui. Des animaux. Oui. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si Fabrice vous en a parlé, le PPRT.
Oui, tout à fait.
Voilà,
oui.
C'est ça.
Oui.
Comment ?
Là, c'est une zone rouge.
Oui. Je crois qu'ils sont rouges, Claire. Je me demande toujours pourquoi. Parce qu'en fait, on fait les études de danger. On fournit l'ensemble des scénarios d'accident, feu, fuite, émanation, incendie, explosion. Donc, c'est une étude de danger qui est réglementaire, qui est exhaustive. Et après, elle est instruite par la DEAL. Ils ont un outil, je crois qu'il s'appelle Cigalea, qui permet de regarder les zones d'exposition. Et il faut savoir que le plan de prévention des risques technologiques a été validé en 2013. Et ça permet de définir les zones rouges d'expropriation, rouge clair de délaissement et bleu de renforcement. Et là, je crois qu'eux, ils sont en rouge clair. Ça veut dire qu'ils doivent délaisser, c'est-à-dire soit partir, soit renforcer. Et les travaux de renforcement sont, bien sûr, proportionnels au risque. S'il y a un risque d'explosion, on va mettre des vitrages qui résistent, etc., des films et tout ça.
Attends,
tout ça,
c'est bien cadré. On passe devant le labo alors, si tu veux.
C'est pas la peine.
Non, bah, vas-y.
L'agrégation de l'ensemble des phénomènes dangereux qui concernent la SARA a permis d'établir une cartographie des risques sous la forme d'un plan de prévention des risques technologiques, dit aussi PPRT, dispositif réglementaire créé suite à la catastrophe de l'usine AZF de Toulouse en 2001. Le PPRT du périmètre concerné par la SARA a été signé en 2013. Concrètement, l'État, via la DEAL, valide les zones d'exposition autour du site en fonction d'études de danger réalisées par la SARA. En application de ce document, les habitations situées à proximité ont été classées en zone rouge, ce qui équivaut à l'expropriation, rouge clair, ce qu'on appelle délaissement et qui permet à l'industriel d'acquérir le bien, bleu renforcement obligatoire et bleu clair renforcement recommandé.
Donc voilà, le PPRT, c'est un document d'urbanisme qui permet de régir l'urbanisation autour de nos sites, malheureusement, il y a un passif. Et les gens ne veulent pas partir.
Oui, c'est ça.
Donc là, Sarah n'est pas maître de la situation. On a fait notre part du job. Il y a la CACEM et la mairie qui se sont saisies de cette problématique. Il faut appliquer le règlement PPRT, donc déjà arrêter de donner des permis de construire aux gens à côté. Et ensuite, pour les maisons qui sont là, eh ben, les gens doivent partir. Sauf qu'à Californie, il y a une histoire et les gens, ils n'ont pas forcément envie de partir et c'est compliqué.
Oui.
On peut s'arrêter ici 2 minutes.
Le quartier de Californie, au sein duquel est niché le site industriel de la Sarah, donne en même temps une assez bonne illustration des enjeux d'habitabilité du site. En l'espèce, Californie se trouve dans une zone où sont implantés 4 sites classés Céveso, donc à risque d'accident majeur, à savoir la Sarah, mais aussi Antigaz, qui est chargé de la distribution du gaz naturel, à quoi s'ajoute une usine d'incinération de déchets ménagers, et la décharge dite de la trompeuse, à l'origine un ancien site de dépôt sauvage formé autour des années 1960, aujourd'hui partiellement saturé, au risque d'ailleurs de prendre feu, comme ça a été le cas en octobre 2021 pendant plusieurs jours. À cela s'ajoutent enfin 4 zones industrielles et commerciales qui attirent quotidiennement des milliers de personnes. Et donc, le développement continu de ces installations et de ces infrastructures expose inévitablement les habitants de Californie à un certain nombre de risques ou de menaces, pollution, enclavement, voire explosion en chaîne. Or, ces enjeux vont connaître un regain d'actualité en 2020 avec le projet Greenwater de la Sarah, soit la construction d'une unité de pompage et de dessalement d'eau de mer, la Sarah étant par ailleurs très consommatrice d'eau sur le réseau public, projet dans lequel certains habitants vont voir une menace supplémentaire pour la biodiversité environnante.
Donc là, on arrive vraiment sur les unités de fabrication. Vous voyez au niveau des tuyaux, les tuyaux rouges, c'est l'eau, l'eau incendie. Les tuyaux jaunes, c'est le réseau mousse. Donc s'il y a un feu, la solution moussante pour éteindre le feu. Et tout le reste, c'est les tuyauteries de produits, d'accord, de gazole, d'essence, de jet, etc., etc. Alors, il faut savoir, voilà, sur la partie séisme, on a, comme on a un site Céveso, et en plus, on est le seul site en zone de sismicité 5. Quand on regarde les arrêtés qui sont sortis sur la réglementation parasismique, on a des textes très pointus qui nous ont obligés à faire des modélisations tenues au séisme de nos installations. Donc on a fait quasiment tout le site, ça fait plus de 10 ans qu'on en fait des études séisme, et à chaque fois les coefficients d'accélération évoluent, donc on doit tout refaire. Bon, voilà. Donc on a identifié les équipements qui potentiellement pourraient ne pas tenir, mais pour lesquels on a identifié des mesures de renforcement. Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, les ouvrages de grande hauteur comme ça, ils ont des fondations qui sont bien calculées, il n'y a pas de problème. Voilà, sur quelques réservoirs, on pourrait avoir des problèmes d'ancrage où on a déjà prévu de faire les choses. Et sur les tuyauteries, on est bien, sur les fours, on est bien, les colonnes aussi, il n'y a pas de problème. Ok ? Non, non, on va continuer, on va aller à droite, on va pas rentrer là.
On va passer
alors, juste,
à droite,
juste pour dire, on est en bordure de la mangrove, on a une mangrove ici.
Oui.
C'est vrai qu'on a des installations qui empiètent un peu sur la mangrove, c'est historique. On a la mangrove aussi, on a des palais tuviers, une mangrove qui est assez dense hein, en bordure immédiate du site. Nous, voilà, on a un effort particulier de préservation de la mangrove, on a la surveillance de nos eaux souterraines, de nos eaux de surface, des prélèvements qui sont faits pour éviter justement d'impacter la mangrove. Voilà, on a des iguanes, des crabes.
Alors, l'implantation de la Sarah au cœur de la baie de Fort-de-France, à proximité de la plus grande mangrove de l'île, n'est évidemment pas sans risque. Pollution de l'air, mais aussi des eaux de mer, voire explosion à plus grande échelle. Autant de risques accrus en cas d'aléas naturels majeurs, comme les cyclones, les séismes, voire les tsunamis. Aujourd'hui, le site de la Sarah est d'ailleurs le seul site industriel de ce type, à l'échelle nationale, situé en zone de sismicité forte, c'est-à-dire maximale. C'est pourquoi, outre une salle de contrôle résistante aux explosions et aux tremblements de terre, le site de la Sarah dispose également d'un groupe électrogène de haute puissance qui lui permet d'être autonome du réseau d'EDF. Et donc, cette situation relativement hors norme, au final, explique que la Sarah soit un site sous haute surveillance, au point d'être même considéré par France Chimie, le lobby de la chimie en France, comme un cas d'école à l'échelle nationale en matière de risque pétrochimique.
Alors là, c'est derrière, vous voyez le poste de chargement des camions, d'accord, avec le toit bleu. C'est là que viennent charger les camions citernes en essence et gazole pour approvisionner les stations-service. On a une unité de récupération de vapeur, là, ce que vous voyez en blanc, c'est quand on charge l'essence, ça fait des vapeurs, et au lieu d'envoyer les vapeurs aux petits oiseaux avec l'aspect pollution et puis l'aspect aussi risque professionnel, les gars qui viennent charger ne pas avoir des vapeurs, on récupère ces vapeurs et on les recondense et on envoie après au bac d'essence. Donc c'est aussi une vocation économique, on ne perd pas notre essence aux petits oiseaux. Et c'est réglementaire, de manière, même si on ne voulait pas, on n'a pas le choix. Au-delà de certains volumes chargés au PCC, on doit avoir une unité de récupération des vapeurs. Il y a des charbons actifs, c'est ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, puis ça recompacte, ça recondense l'essence.
Non, mais on a une sorte de... c'est une forme de colonne d'abattage qui sert à récupérer l'essence au fur et à mesure. Et les vapeurs seront liquéfiées et récupérées après, et ça retourne aussi dans le bac d'essence. Voilà. Le laboratoire, bon, on n'a pas pu le visiter, mais le laboratoire, nous avons un laboratoire puisqu'il faut qu'on soit aussi conforme ce qu'on vend, parce que les voitures, il y a des normes pour les véhicules. Alors nous avons trois types d'analyses. Alors, analyse des gaz pour le butane. Bon, je ne parle pas des analyses intermédiaires que nous mettons de contrôle en ligne pour l'installation, pendant la fabrication, on va dire. Donc analyse des gaz. Nous avons l'analyse des eaux, puisque nous rejetons les eaux dans la mangrove et dans la mer, plutôt. Donc nous avons l'analyse des eaux et nous avons aussi analyse aussi des hydrocarbures.
Aujourd'hui, les Antilles, et il faudrait inclure aux côtés de la Martinique et de la Guadeloupe les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ces territoires insulaires demeurent très largement dépendants, voire hyper dépendants des énergies fossiles. Cette situation s'explique en partie par le fait que ces îles, en tant que zones dites non interconnectées au réseau d'électricité continentale, on parle de ZNI, n'ont pas accès à l'énergie nucléaire et doivent donc produire leur énergie sur place. Dans ce contexte, alors que la filière des énergies renouvelables demeure peu développée en France comparativement à ses voisins européens, en raison de la priorité accordée au nucléaire, les départements et régions d'outre-mer sont aujourd'hui appelés à se montrer exemplaires en la matière.
En fait, derrière, il y avait la zone de l'école à feu, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est là où on s'exerce, on met des feux de fosse, etc. D'accord, il y a une fosse de 200 mètres carrés qu'on a vidée d'ailleurs récemment pour éliminer le produit parce que on avait, voilà, l'émulsion, c'est quand même un produit polluant, il était là depuis un certain temps, donc on a tout vidé, tout nettoyé. Après, on envoie tout en métropole, malheureusement, tous nos déchets dangereux. Vu qu'on n'a pas de filière aux Antilles-Guyane, ça part en métropole. Donc, c'est des gros volumes, c'est généralement 100 tonnes de déchets dangereux par an. L'année dernière, j'en ai eu beaucoup plus, parce que si on a des travaux de bac, on vide les bacs, au fond, il y a des bouts d'hydrocarbures. Tout ça, c'est en France hexagonale pour traitement.
C'est aussi dans cet esprit que la SARA s'affirme depuis peu comme une entreprise à mission selon les règles de la loi Pacte de 2019 relative à la transformation et à la croissance des entreprises.
Bon, on a des valeurs, on a une vision, on a une mission, vous vous en doutez bien. Notre raison d'être avant tout, c'est de fournir des énergies conventionnelles et innovantes. Les deux, alors on dit fournir parce que nous produisons, mais nous pouvons aussi acheter et revendre, comme tout industriel, conventionnel bien sûr sur le cœur de métier, innovant, vous l'avez compris, en termes de diversification, décarbonation, transformation au sens large, au service de l'éco-développement des territoires antillo-guyanais. Nous cherchons à faire de l'hydrogène, ben, nous en produisons un peu comme, je dirais, M. Jourdain faisait de la prose, sans même le savoir depuis 53 ans, déjà pour désulfurer nos carburants routes, jet aviation, diesel, essence. C'est la première fonction. La deuxième, c'est que nous transformons l'hydrogène pour faire de l'électricité. Et puis aussi, avec l'hydrogène, nous faisons, c'est une première mondiale, nous avons une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité. C'est l'inverse pour les scientifiques de l'électrolyse, justement, de l'eau. Donc, voilà un peu. Alors, nous sommes sur l'hydrogène, nous sommes sur les biocarburants, vous l'avez vu. Nous cherchons aussi, non seulement sur la Guadeloupe, mais aussi sur la Guyane, à voir comment transformer certaines algues ou matières ligneuses, je dirais, plantes et autres, endémiques des territoires pour faire soit des huiles, soit des essences, avec d'autres partenaires. Ça, c'est un deuxième vecteur. Nous faisons aussi de l'électricité, c'est un troisième vecteur, une troisième énergie, je dirais. Donc voilà un peu le panel de nos activités. Puis la partie transformation, pour aller très vite, c'est un peu le nerf de la guerre, vous l'aurez compris, avec toutes ces déclinaisons, je dirais, de lois, la stratégie nationale bas carbone, la LTECV, j'en passe, le plan climat 2015 de M. Hulot et bien d'autres. C'est un peu compliqué tout ça. Donc il faut essayer de faire le tri et de voir comment on s'adapte au mieux en fonction de nos ressources, de nos moyens, bien sûr financiers, humains, nos compétences, et puis les technologies, et ça c'est important. Donc il y a une certaine adaptation aussi de nos méthodes de travail, de la manière dont nous devons imaginer notre collaboration en interne pour relever ces défis et être présent au-delà de 2030, avec la décroissance bien sûr de tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre. Donc ça c'est un gros challenge parce que l'un des principaux, je dirais, acteurs, c'est l'humain. Donc, dans sa mentalité, ses comportements, ses schémas, ses mindsets, comme on dit, et autres. Et ça, ça peut prendre un peu plus de temps que le calendrier, je dirais, politique imposé de manière fédérale par l'Union européenne.
Malgré tout, ces projets, aussi prometteurs soient-ils, ne doivent pas occulter l'hyperdépendance aux sentiers empruntés des énergies fossiles, tout particulièrement aux Antilles, et le défi majeur que constitue dans ces territoires insulaires la maîtrise de la demande d'énergie. Or, accompagner le déploiement d'énergies renouvelables, même présentées comme nouvelles, ne signifie aucunement renoncer aux énergies fossiles pour la zone Antilles-Guyane. À ce propos, si l'on jette un coup d'œil aux politiques locales de l'énergie aux Antilles, via ce qu'on appelle les programmations pluriannuelles de l'énergie, les PPE, qui sont co-construites avec l'État, on voit que ces politiques, bien qu'elles plaident aujourd'hui pour le développement des énergies renouvelables, tendent davantage à justifier l'empilement des sources d'énergie, y compris mixtes, qu'à réellement changer de système.